Bonjour Vivien Féasson.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'univers que tu as créé?
Alors, comme tu as dit, en fait, je m'appelle Vivien Féasson. Je partage ma vie, on va dire, entre traduction, cours à la fac, fac d'anglais et création de jeux de rôle. J'imagine que si on parle d'univers, on va surtout parler, je pense, des trois jeux que j'ai faits. Dans un univers bien précis qui a été surnommé par un ami le Rayniverse, qui est en gros, tout le monde sait que les enfants qui se perdent un soir de pluie finissent goutte après goutte par quitter le monde des adultes et entrer dans la ville, qui est une espèce de reflet tentaculaire et labyrinthique en fait du monde des adultes, où il pleut en permanence et où des flaques d'eau et de pluie naissent des créatures qu'on appelle les sirènes de l'averse, des créatures voraces de la chair des petits-enfants, et qui sont généralement plutôt lâches, mais capables de prendre toutes sortes de formes pour attirer les gosses hors dehors des groupes dans lesquels ils se sont mis, pour pouvoir les dévorer tranquillement. Ça, c'est vraiment la base commune, on va dire, à tous les jeux, quoi.
Et tu as sorti trois jeux, c'est ça?
Alors, on peut dire trois, on pourrait dire quatre, si on comptait le il y a un supplément un peu particulier qui crée quasiment un autre type de jeu, et même cinq, parce qu'il y a un jeu gratuit, en fait, qui avait été fait lors d'un Game Chef, je sais plus de quelle année, qui était un événement où on devait créer des jeux sur des thématiques sélectionnées.
Mais du coup, est-ce qu'ils ont les mêmes systèmes de règles ou alors où ça diffère selon les jeux?
Bah, clairement, c'était l'idée. En fait, chaque jeu, ou presque, apporte son propre système de règles. C'est-à-dire
D'accord.
que donc Perdu sous la pluie, qui était le tout premier, c'est du jeu sans meneur de jeu, plutôt un meneur de jeu tournant, et un partage de la narration assez fort, libreté, on incarne un personnage et il y a un meneur de jeu. Et c'est très inspiré du jeu Apocalypse World et des jeux dérivés de ça.
Mmh.
Et par exemple, Explorateur de Bruin, qui est le dernier, on est dans ce qu'on appelle l'OSR, c'est-à-dire des dérivés modernes, on va dire, des premiers Donjons et Dragons. Donc avec, là encore, meneur de jeu et personnage, mais du coup plus exploration de lieux, survie, etc. Là où Libreté était beaucoup plus dans les relations, et beaucoup plus dans les relations entre personnages et les drames, on va dire, humains, quoi.
Mmh. Et dans Libreté, le maître du jeu, il s'appelle pas maître du jeu, il s'appelle adversaire, c'est ça?
C'est ça, il s'appelle même adversaire.
Ah, adversaire, d'accord. Ok.
Ouais.
Et est-ce que du coup, on doit le considérer comme un adversaire?
Non, 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 en réalité. Alors, il y a celles et ceux qui liront le livre verront qu'il y a une espèce de twist qui n'est pas forcément un secret à trouver ou à dévoiler en jeu. Je le révèle pas, voilà, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien se garder la surprise, mais dans l'absolu, c'est moi, de toute façon, je suis incapable de jouer, même quand je fais justement du Donjon et Dragon en mode survie, j'ai quand même une tendance à être un peu gentil, et donc je me vois pas créer un rôle vraiment d'ennemi. De toute façon, c'est pas très pratique en jeu de rôle,
ouais,
donc
c'est
plus en lien, je pense, à quelque part avec l'univers qu'avec le rôle réel à la table. En fait, à Libreté, c'est plus parfois presque les personnages qui sont leurs propres ennemis. C'est-à-dire que on se retrouve assez vite avec des conflits à l'intérieur du groupe. Et je précise bien entre les personnages et pas entre les joueurs, parce que moi, toutes les parties que j'ai faites, les joueurs s'entendaient très bien. Mais effectivement, après, les personnages pouvaient se fâcher, se faire des sales coups, etc., se déchirer. Bon, l'idée, c'est pas de jouer des sournois, mais plutôt
ouais.
Des personnages à fleur de peau, quoi.
D'accord. Et du coup, est-ce que Libreté et tous les autres jeux que tu as sortis dans le Rayniverse, est-ce qu'on peut considérer que c'est des jeux à secrets? Donc, est-ce que les secrets de l'univers sont révélés dans les bouquins?
En fait, il y a une posture un peu intermédiaire, parce que Perdu sous la pluie était absolument pas prévu pour avoir des suites. Donc c'est un jeu qui est très, comment dire, plastique, quoi. Il y a pas tout est dit, voilà, vous affrontez des sirènes de l'averse qui sont protéiformes, qui peuvent adopter toutes les formes possibles. À partir de là, tout est possible. Du coup, il n'y a pas vraiment de secret. À partir de Libreté, il commence à y avoir un univers un peu plus construit, avec des formes de secrets qui n'ont pour but, en fait, que théoriquement, en tout cas, leur objectif, c'est d'être de relancer en fait la machine, quoi. Et je sais que dans les parties que j'ai pu faire, les secrets étaient généralement plus liés au contexte qui était créé par les joueurs que au livre de base. Même si le livre de base donne quelques pistes, il y a des pistes, mais elles sont pas toujours forcément complètement définies, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être définies aussi par la table ou par le meneur de jeu suivant les besoins. Mais vraiment, l'idée, c'est avant tout de relancer l'intrigue. J'avais fait dans les parties test, on avait fait une partie où il y avait une vraie recherche de secrets, et ça n'avait pas du tout marché avec l'esprit du jeu, quoi. C'est-à-dire que ça emmenait les personnages loin, ça faisait des scénarios d'enquête, etc. Et c'est pas du tout l'esprit de Liberté, vraiment pas, quoi. Là, on est vraiment dans les relations entre personnages et ce que les interactions conflictuelles créent comme remous, on va dire, par la suite, quoi. On explore, en fait, plus qu'on ne découvre des secrets, quoi. Et par contre, Explorateur de Bruines, juste, c'est effectivement opte pour quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir plus de secrets parce que c'est un jeu d'exploration de lieux extérieurs et plus un jeu de relations entre personnages à proprement parler. Et il y a notamment dans le livre de base, il y a 100 rumeurs qui dessinent en fait en quelque sorte des secrets possibles, quoi.
Ok, d'accord. Et donc en parlant de Explorateur de Bruines, je crois qu'il est en financement participatif en ce moment?
Non, il a été financé en novembre, je crois, et il est sorti en boutique début mars. Donc là, il est
D'accord.
disponible soit disponible en boutique de jeu, soit il est commandable en boutique de jeu, puisqu'il est distribué par Novalis, qui dessert toutes les boutiques de jeux de France.
Ok, ça marche. Et quelles ont été tes inspirations pour le Rainiverse?
Alors, il y a des inspirations, on va dire, personnelles. Des sensations, des choses comme ça. Je sais que Perdu sous la pluie s'est débloqué. Alors, voilà, je rentre pas forcément trop dans les détails, mais
Ouais.
sur des événements personnels. Après, en termes d'esthétique, il y a clairement des choses qui l'ont influencé très très fort. C'est Silent Hill, la série de jeux vidéo, où il y a vraiment une ambiance comme ça, urbaine, poisseuse, avec des créatures étranges. Et il y avait un jeu, alors du coup c'est pas le jeu lui-même, parce que à chaque fois ce que je dis, il y a un jeu qui s'appelait Rain, hein, il me semble. J'y ai jamais joué, en fait. J'ai juste vu une bande-annonce avec des enfants qui courent sous une pluie poursuivis par des espèces de chiens invisibles qu'on ne voit que quand il y a de l'eau qui leur tombe dessus. Et je sais que l'esthétique m'avait pas mal marqué, donc clairement, enfin, on en retrouve des éléments.
Est-ce
Après,
qu'il
pour
y... Ouais.
Liberté, ouais, juste pour Liberté, il y a très J'ai relu Sa Majesté des Mouches pour l'occasion. Et après la sortie de Liberté, j'ai lu la bande dessinée Seul,
Ah bah voilà, c'est ce
qui
que
ont
j'allais
été
te
aussi.
demander. C'est
Ah,
ce que
d'accord.
j'allais te demander. Vas-y,
Et
continue.
ça, c'est pas des inspirations. Alors, en tout cas, Sa Majesté des Mouches, je l'avais lu il y a peut-être 20 ans ou plus, quoi. Donc, je m'en souvenais plus trop, mais c'était vraiment l'ambiance. Et Seul, ça faisait longtemps que je voulais le lire, mais pour des raisons X ou Y, j'ai attendu après la sortie de Liberté. Donc, pas vraiment une influence, mais du coup c'est complètement dans l'esprit. Après, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a un supplément Liberté qui s'appelle De Billets d'acier, où on joue des pilotes de robots géants contre des sirènes dans un monde qui est envahi justement par cette espèce de monde parallèle. Et là, bon, là pour le coup, c'est du Évangélion
Ouais.
à 200%, quoi.
Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la règle de la carte X?
Ah. Alors, c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord, mais que j'utilise assez peu en réalité, parce que c'est pas toujours facile à mettre en place. Mais la carte X, c'est tout simplement l'idée de mettre une carte au milieu de la table, qui soit bien visible, avec un grand X dessus en général. Et l'idée, c'est que de favoriser la possibilité pour les joueurs et les joueuses qui se sentent pas bien à un moment, ce qui est important. Donc, quand on commence à faire des jeux, par exemple, avec des enfants qui se font du mal. Voilà, et donc il y a des dérapages possibles, quoi. À tout moment, une personne peut toucher la carte X pour dire: ok, ce passage-là, j'aimerais bien qu'on le zappe, ou qu'on fasse une ellipse très rapide, et que tu arrêtes en gros de décrire de manière dégueulasse comment le monstre est en train de dévorer l'enfant, ou des trucs encore plus glauques, quoi. Le plus important, à mon avis, dans la carte X, c'est de dire en début de partie: on est là pour le bien-être des joueurs et des joueuses est plus important que la qualité de la partie. Il y a un moment ou un autre, si vous vous sentez vraiment mal, il faut que vous puissiez le dire. C'est pas, il faut que vous le disiez, parce que ce serait une pression à mettre sur des personnes qui souffrent, mais c'est plutôt, nous sommes là pour accepter que, à un moment ou à un autre, on peut aussi mettre en pause le jeu. On est là pour s'amuser tous ensemble et on n'est pas là pour se faire du mal. Et je pense que c'est ça vraiment le plus important dans la carte X. Parce qu'il y a d'autres outils qui sont peut-être plus efficaces, mais c'est vraiment de dire dès le début de la partie, voilà, ne vous sentez pas obligé de souffrir en silence. C'est pas le but d'une partie de jeu de rôle.
Ok, et du coup, tu as une idée, un univers en tête et une histoire à raconter. Du coup, pourquoi l'avoir concrétisé sous forme de jeu de rôle plutôt que livre, film, bande dessinée?
C'est une bonne question. Bah, c'est compliqué parce que moi, à une époque, j'ai voulu écrire des scénarios de cinéma et ça n'a pas marché. Et des jeux de rôle, on est nombreux à avoir un parcours classique de on fait du jeu de rôle, on finit par commencer à écrire des jeux de rôle,
ouais.
Des trucs un peu crève-cœur à base de 60 espèces surnaturelles possibles, avec des 17 formes de magie, etc. Donc des trucs très fantasy, vraiment bas de gamme, quoi. Mais c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise. Après, dire ça, c'est un petit peu rien dire, parce qu'une fois qu'on a décidé de faire un jeu de rôle, ou une fois qu'on a l'intuition de faire un jeu de rôle, ça a forcément un impact sur ce que, sur le type de comment dire, de sur la forme qu'on va adopter. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas une histoire finalement. Aucun de mes jeux récents finalement ne raconte une histoire, puisque l'histoire, elle est forcément racontée par les joueurs et les joueuses et les meneurs de jeu. Donc, ce qu'on décrit, en fait, c'est plus une vision du monde, en fait. Une vision de, une espèce, alors, j'ai un ami qui dirait une métaphysique, quoi, quelque chose qui surplombe, en fait, les histoires.
Ok. D'accord. Et donc, t'as pas encore écrit de campagne, il n'y a pas de campagne ou de scénario disponible en magasin?
Libreté, ce qui m'intéressait, c'était, j'avais écrit quelques cadres, c'est-à-dire par exemple avec des pré-tirés, des personnages pré-tirés. Donc quelque part, il y a une forme d'impulsion d'histoire dans ces choses-là, quoi. Il y a quand même une imagination là-dessus, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Pour explorateur, comme c'est de l'exploration, c'est pas encore tout à fait une histoire. C'est-à-dire que ça reste encore les personnages qui vont dessiner l'histoire. Par contre, il y a un lieu à explorer et voilà, mais je pense que ça, enfin pour moi c'est de toute façon une erreur d'aborder le jeu de rôle par le biais de l'histoire généralement, enfin la plupart du temps, quoi. Il me semble important que ce soit justement la table elle-même qui crée l'histoire plutôt que de la suivre. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai un peu abandonné avec mon adolescence, quoi, les scénarios très écrits. Je suis pas très doué en fait moi-même en tant que meneur de jeu pour faire des effets. Des voix, des machins, qui à mon avis sont des composantes importantes de ce type d'approche du jeu de rôle. C'est-à-dire le type d'approche où on raconte une histoire, il faut qu'on soit un minimum un conteur, il faut après que les gens aient envie. Enfin, moi j'avoue que ça m'intéresse plus quand je suis joueur, personnellement, d'avoir la main mise sur ce qui se passe plutôt que de découvrir des trucs, d'avoir des rebondissements, ça m'intéresse que moyennement en fait.
Ok. Et quels sont tes projets à venir pour le Rainiverse?
Bah alors pour l'instant c'est un peu flou parce que j'ai une année déjà j'aurais jamais dû prendre le temps de sortir explorateur, j'étais débordé, bon je l'ai fait, voilà, ça j'ai pas pu m'en empêcher, mais du coup c'est vrai que l'avenir pour l'instant est un peu flou. On finit actuellement de sortir les bruines gratuites qui avaient été débloquées, alors gratuites pour les gens qui avaient soutenu, et on les a mis à 1 € sur Itch.io. Donc c'est des mini scénarios en fait, des mini scénarios, c'est pas des scénarios, c'est des mini pièces à explorer, enfin zones à explorer pour explorateur de brune, donc qu'on a fait avec des amis qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et je pense que la suite évidente, ce serait de sortir quelque chose pour explorateur, quoi, un supplément histoire de nourrir un peu le jeu, et sans doute une zone un petit peu de type ce qu'on appelle bac à sable, c'est-à-dire un endroit avec plusieurs lieux à visiter, des personnages à rencontrer, et puis les joueurs ensuite font ce qu'ils, voilà, choisissent dans quelle direction ils vont à ce moment-là, quoi. Donc c'est a priori, en tout cas c'est le projet le plus immédiat, ce serait ça, quoi. Après pour Libreté, comme je disais, j'ai quand même quelques cadres pré-tirés, des trucs que j'aimerais sortir à un moment pour les gens qui ont envie de faire des parties, non pas en campagne mais plutôt en une séance, quoi. Des choses qui m'ont servi, notamment en convention ou à faire découvrir le jeu, que j'aimerais un jour sortir de manière physique. Après, peut-être juste en PDF, pas forcément un gros Kickstarter ou des choses très ambitieuses, mais voilà.
Ok, et est-ce que du coup tu réfléchis à la création d'autres jeux de rôle, autres que le Rainiverse?
Oui, forcément, mais pour l'instant, tous les projets qui ont été. Alors, j'ai une envie de jeu de science-fiction et j'ai aussi voilà, mais qui sera un peu compliqué parce que c'est très, très inspiré de l'univers de Blame, la bande dessinée. Et quand je dis l'univers, je veux dire l'ambiance, en fait. C'est-à-dire cette ambiance un peu étrange avec un personnage soit amnésique, soit dont on sait rien. Et ça, en jeu de rôle, ça représente une espèce de défi conceptuel, quoi. Donc, si ça se trouve, ça sort, je trouverai jamais, je débloquerai jamais l'idée magique pour faire avancer ça. Ou tout dépendra si j'arrive à débloquer du temps déjà pour pouvoir y réfléchir. Peut-être que déjà, ce serait un bon début pour avancer. Mais c'est à peu près tout, parce qu'en réalité, après, j'ai énormément de projets qui sont très ancrés dans le Rainiverse, quoi. J'ai cette idée d'une campagne où on jouerait des adultes qui vont chercher les enfants. Une campagne où on joue d'anciens enfants qui sont revenus dans le monde réel et qui n'ont pas réussi à se réadapter. Des choses comme ça, quoi. Après, est-ce que ça se fera ou pas, ça dépendra voilà, de ma motivation, quoi.
Ok, et donc du coup pour terminer, on va continuer avec des questions un petit peu plus personnelles. Quelle est ta première expérience de jeu de rôle?
Alors, si je me souviens bien, parce que j'en ai plusieurs, mais je sais plus dans quel ordre elles se sont faites, hein, ça commence à dater. Je pense que ma première expérience, c'était Warhammer, le jeu de rôle. Alors, théoriquement, ma vraie première expérience, c'était les livres dont vous êtes le héros, qui n'étaient pas des jeux de rôle, mais qui m'ont quand même. Enfin, voilà, ce qui fait que j'ai eu ensuite peut-être des semi-expériences, des échecs, mais qui font que je me suis accroché, c'est que j'ai d'abord eu toute cette espèce de substrat de livres dont vous êtes le héros. Mais après, il y avait eu une collection qui était. Je sais plus, Terre de légende ou je sais plus quoi. Il y avait une collection de jeux de rôle dans l'univers des livres dont vous êtes le héros, mais ça n'a pas été ma première expérience parce que j'ai lu ça et je n'ai rien compris. J'ai pas compris comment j'utilisais ce livre en fait, et il a fallu peut-être 10 ans après pour que je puisse être testé. Donc en fait, je pense que ma première expérience c'était Warhammer. C'est pas un jeu que j'avais acheté, c'était des amis qui me l'avaient passé et qui était plutôt un bon jeu d'initiation, parce que le scénario, enfin, c'était très guidé, quoi, avec des cadres à lire. Voilà. Alors, pourtant, le bouquin, si je me souviens bien, faisait énormément de pages. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très utiles, mais c'était une époque où, en tout cas, ça me gênait pas d'avoir beaucoup de trucs à lire du moment que j'étais sûr à peu près de la direction où j'allais.
Ok. Et du coup, t'es plus joueur ou maître du jeu?
Je suis beaucoup plus meneur de jeu en général, et je pense dans l'absolu que je préfère être joueur, mais je suis plus difficile. Et du coup, c'est toujours un peu la possibilité de garder la main en fait sur ce qui se passe, meneur de jeu. Donc c'est un peu contrôle freak par certains aspects, quoi. Je crois que ça va un peu mieux maintenant, mais en général, voilà. Bon, après, il y a beaucoup de gens aussi autour de moi qui voulaient pas être faire meneur de jeu,
Ouais,
donc
c'est
du
souvent
coup,
ça. Hein. Donc du coup, on devient
c'est ça.
maître du jeu soi-même parce qu'on a envie de jouer.
C'est exactement ça, notamment, voilà, c'est pas forcément, c'est non seulement le jeu, mais aussi l'ambiance qu'on veut y mettre,
Ouais,
c'est
voilà.
aussi, voilà, pour être sûr qu'il y ait ça dans la partie, au moins un minimum, quoi.